Sur nos niches de marché. On a dans le déminage la robotique sous-marine deux concurrents principaux qui sont Atlas en Allemagne et Kongsberg en Norvège. Et puis dans la robotique terrestre, des concurrents un peu plus nombreux, notamment aux États-Unis parce que le marché y est plus développé. Ouais. Et sur les autres technologies, il y a des concurrents, mais qui, je dirais, bon, se comportent normalement sur ce type de marché.
L'entreprise est cotée sur Euronext Paris. Elle est labellisée entreprise innovante. Cela sous-entend qu'il faut innover en permanence. Est-ce qu'on peut connaître votre budget R&D, puis sur quoi vous travaillez actuellement, sur quel type de robot ou autre machine?
La dépense de R&D en 2008, ça a été 10 millions d'euros. Hein, donc comparé au chiffre d'affaires, c'est très significatif.
Clairement, oui.
Alors bien sûr, ce ne sont pas 10 millions d'euros qui sont entièrement financés par les fonds propres de l'entreprise. On bénéficie d'un certain nombre d'aides. Alors d'abord, l'aide de certains de nos clients, notamment le ministère de la Défense français au travers de la DGA, qui nous considère comme une entreprise stratégique. Donc ça se fait à travers des contrats rentrant dans les plans d'études amont. Et puis, bien, nous avons également, nous faisons appel au dispositif de subventions, d'avances remboursables, d'OSEO, de l'ANR, oui. Tout ça, la plupart du temps, à travers les pôles de compétitivité. Et finalement, nous avons financé l'année dernière 3 millions d'euros sur fonds propres, ce qui est quand même pas négligeable comparé au chiffre d'affaires.
Un petit mot, c'est juste pour le clin d'œil, hein. Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, des robots terrestres pour Scotland Yard. J'imagine que ce sont des robots qui vont faire sauter une valise ou des choses comme ça, voire déminer réellement, non?
Alors, il y a effectivement des robots pour faire sauter des colis
suspects.
Ah, il y en a d'ailleurs des robots ICA qui sont en opération dans les aéroports français. Ouais. Là, en l'occurrence, pour ce qui concerne Scotland Yard, ce sont des petits robots d'observation qui permettent d'aller inspecter sous des camions, des véhicules, etc., pour vérifier qu'il n'y a pas d'objets explosifs. Et c'est en vue des Jeux Olympiques de 2012.
Ah ben voilà, merci pour cette précision. Votre installation, sera ma dernière question, elle est beaucoup plus ouverte cette fois-ci. Votre installation à Toulon est liée justement au fait que cette région a toujours connu une forte activité dans l'industrie militaire, dans la conception d'éléments militaires, tout simplement, au service de la défense nationale.
Oui, c'est une implantation historique, hein, et cette implantation à Toulon. D'ailleurs, la première implantation des cas, c'était à Ramatuelle, hein, près de Saint-Tropez. La raison étant que la DCN avait un établissement à Saint-Tropez spécialisé dans les torpilles. Mmh. Hein, et comme vous le savez sans doute, les torpilles sont de plus en plus intelligentes. Et donc, ECAS est construit et développé à côté de l'ECAN de Saint-Tropez pour apporter justement de l'intelligence dans les torpilles. Et c'est un peu ce qui a conduit ECAS à développer cette activité sous-marine.
D'accord. Merci beaucoup de votre visite, Dominique Villebois. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du groupe ECA.
BFM Radio, rediff.
À chaque instant, écoutez BFM Radio, la radio de l'écho.
Je pense qu'on ne moralisera pas le capitalisme. Le capitalisme, c'est une recherche en soi du capital et donc du profit.
Écoutez BFM Radio en numérique, sur le câble et le satellite.
En France, on a toujours eu un problème avec l'idée que le prix était fixé librement. Et c'est vrai pour les salaires, c'est vrai pour les prix.
Écoutez BFM Radio partout en France. À Marseille, 93.8.
Ce que ça traduit aussi, c'est l'extraordinaire faiblesse du dialogue social dans notre pays.
Et donc, nous serons tous dans la rue.
BFM Radio à Vichy, 91.8.
Les patrons sont ulcérés.
Ils sont très cons sur ça. Je crois que non.
Écoutez BFM Radio sur votre téléphone au 36.67, 34 centimes la minute.
Il y a un droit contractuel en France, bon sang, on est un pays de droit.
Oui, vous avez tout à fait raison.
Écoutez BFM Radio.
Bien. Cette émission. Et donc, alors en l'occurrence, le Linux Ubuntu, hein, plus exactement, la gendarmerie nationale a en effet donc calculé que remplacer Windows par Linux sur ses 85 000 postes de travail lui ferait économiser 2 millions d'euros de licences par an. Alors ce n'est pas une première pour la gendarmerie, puisque celle-ci avait déjà remplacé il y a quelques temps la suite bureautique Office de Microsoft par son équivalent OpenOffice. Mais là, le projet de migration de vers Linux, donc Ubuntu, durera jusqu'en 2015 et la gendarmerie a déjà installé Linux sur 7000 de ses postes.
Stéphane Fermigier, vous êtes fondateur de Linuxéo et président d'un groupe thématique au sein du pôle de compétitivité systématique. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, de voir des gens comme la gendarmerie nationale qui passent sur du logiciel libre.
Alors évidemment, c'est une très très bonne nouvelle.
Parce que, la gendarmerie, 85 000 postes, hein, c'est pas
oui, voilà. Tout à fait. La gendarmerie Gendarmerie nationale s'est investie depuis des années, enfin depuis le début des années 2000, sur des programmes de migration, aussi bien au niveau de la bureautique, des clients de messagerie et maintenant du poste de travail qui passerait sous Linux, ce qui serait une des grandes victoires du logiciel libre dans le domaine du poste de travail, qui est un domaine sur lequel on sait que Linux a encore un petit peu du mal à percer, même s'il est très présent dans d'autres domaines. Bon, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'ensemble des services de l'État également se posent des questions depuis le début des années 2000 sur des migrations vers des logiciels bureautiques ou autres.
Et là, on parle d'économie de licence, mais bon, on en reparlera lors de notre débat, mais il n'y a pas que ça.
Bien sûr, il n'y a pas que les questions de coûts, hein, y a des questions d'indépendance stratégique qui, à mon avis, sont fondamentales, en particulier dans le domaine de la défense. Et je pense que c'est important de continuer à développer le logiciel libre dans ce domaine, sachant qu'il y a aussi des contre-feux, des contre-pouvoirs, du lobbying intense de la part d'éditeurs américains.
Un mot de Philippe Montargès de l'Open World Forum.
C'est une très très bonne nouvelle, d'autant qu'à côté, on a certains ministères qui font, semble-t-il, marche arrière sur le secteur, notamment le ministère de la Défense, puisque c'est ce qu'a évoqué Stéphane à l'instant, qui a fait marche arrière sur ce problème de l'acquisition de logiciels libres, et aussi des grandes collectivités locales, puisque vous êtes sûrement au courant aussi que le DSI de la ville de Marseille a fait un choix de revenir en arrière sur le choix de certains logiciels libres par rapport à une offre Microsoft. Donc c'est une très bonne nouvelle, mais qu'il faut vraiment insérer dans une stratégie plus globale.
On va en reparler tout au long de cette émission qui est consacrée, je le rappelle aux auditeurs de BFM Radio, au logiciel libre, à ce monde de l'open source. On reprend avec vous cette semaine de l'actualité high-tech. Yann Serra, journaliste chez 01. L'Europe qui, pour le coup, a repris une initiative américaine. Aux États-Unis, ils ont déjà fait ça trois fois. C'est une épreuve de simulation de cyberdéfense, hein, c'est ça ?
Exactement. Donc, ça s'est passé jeudi dernier. Donc, les 27 États membres ont testé les moyens de défense de leur réseau informatique dans le cas d'une éventuelle cyberguerre. Les exercices envisagent notamment des attaques qui couperaient successivement les connexions Internet de chaque État membre, et le but était d'évaluer la capacité de chaque pays à coopérer avec les autres pour réorienter les trafics de données sans tenir compte des frontières et des instituts de chacun des États.
Alors c'était surtout, on va le préciser aux auditeurs de BFM Radio, c'était pas une simulation technique, hein, y a pas eu de coupure, c'était beaucoup sur l'information, voir comment Exactement. Ils échangeaient les informations, comment ils communiquaient entre eux pour par rapport à cette simulation de cyberattaque sur
Exactement, les États membres de l'Europe. L'idée est de, si par exemple Internet ne fonctionne plus en Lettonie, eh bien il faut que la Lettonie soit capable de communiquer avec les pays voisins, voire avec des pays un peu plus loin, pour rerouter le trafic sur son territoire.
Alors, autre nouvelle en France aussi, ça paraissait juste un changement de sémantique, mais finalement c'est assez important, c'est le Syntec informatique qui devient Syntec numérique.
Oui, on l'avait annoncé ici même, hein, plusieurs fois. Le syndicat des professionnels de l'informatique a profité de sa conférence semestrielle d'automne pour officialiser son changement de nom. Alors derrière cette nouvelle appellation de Syntec numérique, il s'agit surtout pour le Syntec de réunir plus de collèges professionnels, à savoir bon, les SS2I, les éditeurs, les cabinets de conseil, mais aussi, la nouveauté par exemple, ce sont les opérateurs télécoms.
Et même je crois que Guy Mamoumani, le président du Syntec numérique, maintenant voudrait même ramener à lui des gens de l'électronique, voilà.
Et aussi les gens du mobile.
De tous ces univers.
Oui, et alors, du coup, un certain nombre d'acteurs des réseaux ont commencé à adhérer au nouveau syndicat, donc Cisco, Alcatel par exemple, et puis bon, d'autres sont encore attendus, notamment avec ce nouveau collège de mobilité qui devrait voir le jour bientôt. Alors, en revanche, l'AFDEL, donc l'Association française des éditeurs de logiciels, n'a pas voulu rallier le Syntec numérique, car selon elle, les métiers du numérique restent très différents et continuent de justifier des associations spécifiques.
Alors, un dernier mot, une dernière news cette semaine, Yann Serra, c'est 3% de croissance pour les logiciels et les services en France en 2011.
Tout à fait. Alors, et c'est justement le Syntec numérique qui le prédit. Et selon lui, ce sont les secteurs de la banque et des télécoms qui redeviendront le fer de lance de la dépense informatique, juste derrière l'énergie. Le secteur public sera en revanche en net retrait, puisque l'essentiel des investissements a été consenti déjà depuis 2 ans. Et il est à noter que le chiffre d'affaires des logiciels et des services pour 2010, hein, cette année, devrait finalement avoir augmenté de 1% par rapport à l'année dernière, soit une valeur de 40,5 milliards d'euros.
Eh bien, merci Yann Serra, journaliste à la rédaction de Zéro Informatique, pour ce tour du monde de l'actualité high-tech. Et on se retrouve tout de suite avec nos invités. On va parler de logiciels libres.
01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio.
Et nous retrouvons avec nos invités, tous experts du monde du logiciel libre. Alors,
juste, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner une première définition pour les auditeurs de BFM Radio qui, voilà, logiciel libre, alors on va leur parler un peu de Linux, ils ont l'impression que c'est des choses qu'on peut charger gratuitement.
On peut donner une définition très simple. Fibre,
Targesse,
oui, peut-être, et puis que sûrement mes collègues vont amender. Je dirais qu'on pourrait définir le logiciel libre comme la possibilité d'exécuter son logiciel de manière infinie, d'y accéder d'une manière complètement libre, accéder au code, de le distribuer, de le modifier d'une manière complètement libre aussi, sans limite, et de le distribuer autant de fois qu'on veut. C'est les quatre critères qui pourraient définir très simplement le logiciel libre, qui a une licence. Un logiciel libre ne veut pas dire qu'il n'y a pas de licence, il y a une licence, mais qui agit selon ces quatre critères.
Voilà, alors, et je vais me tourner justement vers Franz Meyer, rappeler un peu qui est Red Hat, et justement dire que, oui, dans le logiciel libre, il y a des sociétés commerciales, et puis donc, voilà, et nous dire, voilà, où vous faites votre business aujourd'hui. Alors, comment vous le faites?
Absolument. Donc, Red Hat, c'est une société commerciale qui est même cotée en bourse aux États-Unis sur le NYSE, le New York Stock Exchange, depuis 99, et qui fait un chiffre d'affaires qui avoisine le milliard de dollars. Donc, ça finit par rapporter à vendre des choses gratuites, comme on dit. En fait, le logiciel libre, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que c'est d'abord un modèle de développement de logiciel. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, on développe de manière communautaire et collaborative des logiciels qui sont des ressources communes pour tous, et donc ça appartient à tout le monde, ou ça appartient à personne, on va dire. Et puis effectivement, après ça, on va développer tout un tas de services, de valeurs ajoutées, d'assurances, de garanties.
De maintenance.
Maintenance, support, certification, des durées de vie de 7 à 10 ans, des choses comme ça, qui sont packagées avec ce logiciel qui est libre et qu'on trouve effectivement sur Internet, les bit and byte, comme on dit. Et à partir de là, bien packagé. Ben on vend ça comme un abonnement là-dessus. Donc, je fais souvent une analogie traditionnelle, c'est l'eau est une ressource, alors pas infinie malheureusement dans notre monde, mais qu'on a gratuitement si on le veut. Nous, si vous voulez, on vend de l'eau minérale en bouteille et les gens l'achètent, alors que ils ont de l'eau à leur robinet chez eux, ou ils ont même un puits au fond du jardin gratuitement.
Et puis elle est présente, Bruno Hocher, vous êtes, je rappelle, de Bull Service. On a du logiciel libre un peu sur tous les univers, hein. C'est il y a le concurrent du Windows classique, il y a le concurrent de la suite bureautique, des concurrents de logiciels de gestion.
Bon, en termes d'usage, aujourd'hui, on va en trouver partout. Effectivement, tout à l'heure, on parlait du PC, donc vous en trouvez sur les PC. On peut parler, par exemple, des supercalculateurs. Donc aujourd'hui, on a annoncé hier, par exemple, qu'on avait battu les records en matière donc de puissance, puisqu'on a dépassé avec le 5 teraflop, donc
sur CEA. Sur une machine bulle, d'ailleurs. C'est la plus grosse machine européenne. Quoi,
exactement, c'est la plus puissante aujourd'hui. Et 85% donc du logiciel qui constitue aujourd'hui cette machine est constitué de logiciels libres. Donc on en trouve partout. Vous en trouvez PDF Creator sur votre PC, puis vous en trouvez dans le CEA, dans les machines du CEA.
Alors, je vous ai vu réagir tout à l'heure, Stéphane Fermigier et Philippe Montargès, lorsque Yann Serra parlait des résultats, des éditeurs de logiciels. Voilà, vos réactions, c'était autour de Stéphane Fermigier.
C'était pour donner juste une information marché également sur ce marché du logiciel libre. Donc des gens comme Pierre Audouin Conseil, cabinet d'études bien connu en France, ont prévu une croissance qui est largement plus importante dans le secteur du logiciel libre, qui serait aux alentours de 30% pour 2010-2011. Et globalement, on voit que le marché du logiciel libre avance à un rythme beaucoup plus soutenu que celui du logiciel, enfin de l'ensemble du secteur du logiciel.
Philippe Montargès.
Je réagissais au propos de Yann Serra sur deux choses. Il y avait le fait que Syntec changeait son nom et s'appelait Syntec Numérique.
Est-ce que vous-même, acteur du libre, vous êtes au sein du Syntec?
En ce qui nous concerne, indirectement via systématique, parce qu'on est adhérent systématique.
D'accord, via le pôle de compétitivité.
En fait, la problématique que se pose au Syntec, c'est que toutes les entreprises s'inscrivent de plus en plus dans des modèles numériques. Mm-hmm. Avant, il y avait d'une part des offreurs de solutions informatiques et il y avait des consommateurs. L'évolution actuelle, notamment grâce au logiciel libre qui permet effectivement une accessibilité, une infusion de masse des nouvelles innovations, fait que, avec les grandes innovations en mobilité, le cloud et tout, fait que toutes les entreprises s'inscrivent dans une démarche d'entreprise numérique. Et donc, la problématique du Syntec, c'est effectivement le périmètre qu'elle recouvre s'élargit de plus en plus.
Voilà, et d'où cette volonté d'élargissement du Syntec numérique aujourd'hui. Eh bien, on va continuer à parler de tout ça et surtout de logiciels libres dans la suite de cette émission. C'est tout de suite sur BFM Radio.
Mon nuage à moi avec eux.
EMC. Philippe Morel, directeur des systèmes d'information.
Avec mon cloud privé, je pilote enfin mes ressources IT en temps réel. L'informatique est calquée sur les besoins métiers et nos orientations stratégiques. Les déploiements sont bien plus rapides. Je garde les dépenses sous contrôle et la DSI est 100% au service de la performance de l'entreprise.
Créez votre nuage avec EMC, le leader du cloud privé, sur monnuageamoi.com.
Un message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de 01 Informatique.
Cette semaine, 01 vous présente les 100 personnalités les plus influentes du paysage numérique français. Chercheurs, dirigeants, experts, ils sont au cœur de la high-tech en France et font bouger nos entreprises. 01 cette semaine prend aussi la défense des entreprises innovantes. Face au coup de frein prévu par l'État pour leur financement, la communauté réagit et craint des conséquences dramatiques pour l'innovation.
Retrouvez 01 Informatique, le leader de l'information high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www.kiosque01.com.
BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
De retour avec nos invités pour parler de logiciels libres et de toutes les problématiques autour de l'open source. Voilà, c'est le mot anglais pour traduire logiciel libre. On a parlé un peu du marché. Et aujourd'hui, alors quels sont les avantages à passer sur du logiciel libre? Je vais me tourner vers vous. Mais Boris Sochet de Bulle Service.
Le premier avantage que les sociétés nous avancent, c'est l'agilité. Vous avez la possibilité aujourd'hui, donc assez facilement, de mettre en place des nouvelles solutions, de mettre en place des nouveaux métiers, à la limite de les accompagner avec des logiciels qui sont assez faciles à utiliser, que vous pouvez télécharger, pour lesquels vous pouvez faire un pilote, donc c'est assez facile. Le deuxième qui est quand même important, même si on dit tout le temps que c'est pas le plus important, ça reste le coût. Quoi qu'on dise, donc le coût aujourd'hui fait que l'utilisation d'un logiciel libre représente à peu près 30% du prix donc d'un logiciel propriétaire utilisé à peu près dans les mêmes conditions.
Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Est-ce que des clients viennent voir les uns les autres et il y a encore quelques années, peut-être 3-4 ans, ils venaient plus pour l'histoire de coût et puis aujourd'hui ils viennent vraiment pour des histoires de performance, tout ça?
Oui, autrefois c'était évident, donc c'était le premier argument. Donc aujourd'hui ça change, pourquoi? Bah, déjà parce qu'il y a des logiciels...
C'est pas gratuit déjà?
Voilà, c'est pas gratuit, tout à fait, c'est pas gratuit. Puis vous avez des logiciels à souscription qui s'avèrent peut-être dans certains cas aussi élevés que des logiciels propriétaires. Mais même si ça n'est plus le premier argument, ça reste un argument qui est important, à côté de l'agilité, par exemple.
Franz Meyer de Red Hat.
Oui, alors évidemment, à côté du coût sur lequel tous les dirigeants d'entreprise ou même le consommateur de tous les jours est forcément attiré. Si on regarde sur les systèmes d'informatique, il y a des motivations. On parlait tout à l'heure des secteurs banques, télécom, qui sont gros consommateurs informatiques, mais le service public aussi. Et il y a des motivations qui, au-delà des coûts, sont très importants, qui sont le phénomène d'indépendance. C'est-à-dire, on voit ce phénomène mondial de consolidation des acteurs aujourd'hui
vis-à-vis du fournisseur,
et de la technologie en elle-même, parce que bon, on voit déjà une consolidation des fournisseurs de manière très importante, hein, avec les rachats que n'arrêtent pas de faire les géants, mm-hmm. Et donc ça veut dire que finalement, bah, le fournisseur qu'on a chez soi, il devient tellement dominant et dominateur que on veut aussi s'affranchir de ça. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas de fournisseurs, mais si on a des fournisseurs qui se basent sur des technologies pour lesquelles la technologie est ouverte, ouais, elle se base sur des standards, elle est accessible pour d'autres, je peux plus facilement m'affranchir de ce fournisseur si jamais il dérape, on va dire.
Oui. Donc, ou s'il disparaît.
Je pense que, en ce sens, le libre a réintroduit sur le secteur de l'IT beaucoup de concurrence, a réintroduit un air frais, et réintroduit un air frais à la fois dans le monde internet et dans le monde de l'infrastructure aussi, parce qu'effectivement il y a une nouvelle offre. Et que le libre, c'est quoi? C'est plus de standardisation, c'est plus d'interopérabilité,
oui,
plus d'accessibilité facile. Donc ça permet effectivement de se dégager d'une forme de dépendance par rapport à des grands éditeurs ou des grands monopoles. Et donc ça réintroduit par la création de valeur, parce qu'il y a de l'innovation qui se fait et parce que les acheteurs, les donneurs d'ordre, peuvent mettre en concurrence plus facilement sur ce qui est important pour lui, c'est-à-dire la création de valeur qui se passe sur la qualité de service qui est apportée ou la création de valeur que je fais avec mon logiciel. Et pas uniquement acquérir un logiciel dans une économie de rente qui génère pas forcément de la valeur à l'instant T pour l'utilisateur. Je crois que c'est ça, que cette réappropriation est importante.
Stéphane Fermiger, vous fondateur de Nuxeo et puis président ancien président de la FUL jusqu'en 2003, de l'Association française des utilisateurs de logiciels libres. Vous avez vu cette tendance revenir, c'est-à-dire au début, on va dire, lorsque vous avez créé la FUL en 98, je veux dire, les utilisateurs de logiciels libres, c'était presque une secte, quoi. C'était des barbus au fond des laboratoires de recherche, et puis vous avez
avez vraiment vu monter en puissance cette qui est devenue une industrie comme une autre. Et aujourd'hui, voilà, c'est plus. On va les voir comme avoir un éditeur de logiciels propriétaires.
Tout à fait. Quand on a démarré, par exemple en 98, la FUL, il y avait tous les gens qui étaient présents à ce moment-là sentaient bien qu'il y avait quelque chose d'émergent qui allait d'une certaine façon révolutionner le monde de l'informatique. On savait pas encore exactement comment, mais je pense qu'on avait tous envie d'être acteurs de cette révolution et de participer à ce développement. Bon, on a vu Red Hat qui est arrivé justement à cette époque, qui a explosé, qui a fait son IPO et qui ensuite est devenu le principal acteur de ce secteur, ou l'un des principaux.
On a vu aussi des acteurs rachetés par des acteurs du... puisque SUSE, qui était un peu l'un des concurrents de Red Hat, a été racheté par Novell, qui éditait des logiciels là, propriétaires. Donc,
Et ça, on va dire, c'est la vie des entreprises. Mm-hmm. Il y a des projets, de toute façon, des projets de logiciels libres qui émergent. Et c'est là aussi l'un des... peut-être un quatrième argument en faveur de l'utilisation des logiciels libres, c'est le côté innovation ouverte. C'est-à-dire que c'est un modèle de développement qui fait qu'il va être beaucoup plus facile pour des acteurs en général dispersés à travers le monde, des scientifiques, des entrepreneurs, des gens qui sont effectivement plus des barbus, entre guillemets, des gens qui font ça par intérêt purement personnel, et ils vont travailler ensemble à créer et à améliorer des produits qui peuvent ensuite avoir un impact considérable sur la capacité d'innovation d'acteurs plus établis ou de fondateurs de start-up.
Alors, à contrario, est-ce que le risque de tout ça, c'est de ne pas avoir une dispersion trop importante? Voilà, on est un futur client, un potentiel client, oui, et on est un peu perdu dans toutes ces offres. Philippe Montargès, puis après vous, Boris Sauchet.
C'est un des freins au développement du libre, c'est effectivement l'offre technologique existe, l'offre de produits existe. Ce qui manque, c'est effectivement souvent auprès des grands clients notamment, c'est une capacité d'intégration et d'avoir un interlocuteur unique pour assembler tout ça, gérer tout ça d'une manière unique par rapport à un seul donneur d'ordre.
Donc c'est pour ça qu'il y a des sociétés comme la vôtre qui sont opérateurs de services.
Et je pense que la fonction de service, d'intégration de service est importante là-dedans, parce qu'effectivement, mais ça c'est vrai, quel que soit le secteur de l'IT, les grands intégrateurs, les HP, les Dell et tout ça, ont une logique de plus en plus de traiter leurs clients avec un seul point d'entrée qui derrière, et eux, assemblent un ensemble de réponses, de supports, de services auprès de leurs clients. Et ça, le libre redonne de la concurrence, mais permet aussi d'adresser des solutions très très pragmatiques et très très flexibles par rapport à ce type de problématique pour les grands intégrateurs.
Boris Sauchet de Bus
Service. Oui, moi pour revenir, pour reprendre la question, est-ce que ça présente un inconvénient? Moi, pour moi, je pense que c'est un très grand avantage. Le fait qu'il y ait énormément de composants, qu'il y ait une très grande richesse en termes de fonctionnalités, de technologies, j'allais dire d'endroits où il a pu être développé, pour moi, c'est une très très grande richesse. Et l'entreprise a tout à y gagner.
Après, je reprends l'image du supermarché, on veut acheter son morceau de beurre, on ne sait plus lequel prendre tellement on a de marque.
Mais c'est exactement
perdu.
Ça.
Et on va reprendre la même finalement.
On va rester sur le supermarché. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se monter des supermarchés. Donc il va y avoir des sociétés, des intégrateurs, des éditeurs qui vont réorganiser un petit peu tout ça. Après, vous allez avoir des gens, on va reprendre, qui vont organiser les rayons. Et puis après, vous allez avoir des gens qui vont faire un peu de promotion pour promouvoir tel ou tel composant parce qu'il aura tel ou tel avantage. Donc en fait, c'est vrai que ça crée un modèle d'affaires, ça crée un écosystème d'affaires de sociétés de services, d'éditeurs, d'intégrateurs, qui se nourrit de cette richesse-là. Mais pour reprendre la question, moi je pense que c'est une très très bonne chose que ça soit très très riche.
Le seul bémol, plus.
Oui, Philippe Montargès, ouais.
Hormis, et on a la chance d'avoir la plus grande réussite à la table du secteur du livre.
Un milliard.
Façon de parler, français. à Red Hat, il est nécessaire pour le secteur d'avoir des acteurs de taille suffisante qui opèrent complètement et qui s'assument en tant que tel. Et ça, c'est un point important pour pérenniser le développement à venir du logiciel.
Et alors, France Meyer, puis je poserai la question après à Stéphane Fermigy, enfin cette même question. Du coup, vous avez vu aussi la concurrence, ils ont bougé. Je disais tout à l'heure, Novell a racheté une société qui s'appelait SUSE, qui faisait donc qui faisait de la distribution Linux. On ne parle pas d'édition de logiciels, on parle de distribution. On l'a vu dans d'autres domaines, on voit d'autres éditeurs de logiciels plutôt propriétaires rachetés d'open source. Vous les avez vus forcément bouger, enfin, on va dire depuis 2-3 ans, ça y est, ils ont quand même réagi un peu plus, même les Microsoft qui
absolument.
Maintenant...
Ouais, Microsoft c'était un peu l'anti-logiciel libre il y a 10 à 5 ans, et puis ça a quand même pas mal bougé depuis. Bon, attention, faut pas...
Oui.
Il y a beaucoup de poudre aux yeux, parce qu'il fallait forcément à un moment donné accepter ce qui se passe un petit peu.
Mais ça a quand même bouleversé le marché.
Le marché. Ce qui se passe, c'est que ce modèle de logiciel libre qui développe du logiciel de manière communautaire, il innove à la vitesse grand V. Et on le voit et ils rattrapent en fait les phénomènes propriétaires de manière incroyable. Un des exemples plus grand public à la rigueur qu'on peut citer, c'est le phénomène Android sur les téléphones vis-à-vis de l'iPhone. L'iPhone fait un tabac et continue à faire un tabac, sauf qu'il est dépassé maintenant par Android aux États-Unis, alors que c'est basé sur un noyau Linux là-dessus. Et c'est lié à l'ouverture, à la facilité de développement et d'innovation qui est faite. Donc on voit ça. La grosse difficulté, par contre, que l'on voit, c'est que ils l'ont intégré, ils commencent à faire, mais ils n'ont pas dans leur culture réellement encore intégré ces acteurs du monde, on va dire propriétaire. Il n'y a rien de mauvais à ça, hein, c'est un différent modèle. En reprenant du libre, ils n'ont pas ça dans leur gène en termes de modèle, c'est-à-dire de partager, de savoir contribuer, d'ouvrir, parce que garder la propriété.
Il y a une culture derrière tout ça, Stéphane Fermigier.
J'aimerais préciser un petit peu. Effectivement, il y a des grands acteurs, par exemple IBM est aussi un contributeur considérable au logiciel libre. Donc ces acteurs ont vraiment fait un choix stratégique assumé de développer et de promouvoir du logiciel libre dans certains domaines qui restent peut-être un peu annexes par rapport à l'essentiel de leur business. Ce ne sont pas des pure players comme un certain nombre d'acteurs qui sont autour de cette table, mais effectivement ils ont un engagement fort. Et il y a d'autres acteurs, on va dire, qui vont peut-être un petit peu plus à reculons. On a parlé de Microsoft. Et enfin, je pense qu'il y a un troisième aspect à cette révolution, c'est que pratiquement tous les éditeurs de logiciels propriétaires, quels qu'ils soient, peut-être ceux qui sont à 100% sur les plateformes Microsoft, mais tous les autres, dans tous les domaines des logiciels d'entreprise, et notamment sur les plateformes Java, qui intègrent de plus en plus, peut-être 80%, on a avancé le chiffre de 80% il y a déjà 2 ans, du logiciel libre dans leur logiciel propriétaire.
C'est-à-dire Gartner dit ça, 80% des éditeurs mettent des produits open source dans leur solution.
Voilà, les briques maintenant fondamentales du logiciel, quel qu'il soit, libre ou propriétaire, sont des logiciels libres.
Eh bien, merci à tous. On va poursuivre ce débat passionnant sur ce logiciel libre que l'on découvre dans cette émission 01 Business. Enfin, j'espère que les auteurs de BFM Radio le découvrent. Et on se retrouve après le journal de l'économie sur BFM Radio.
BFM Radio, 23h30.
On démarre avec l'ouverture du G20 aujourd'hui à Séoul. Hu Jintao promet déjà une réforme progressive du yuan. Le président chinois prévient tout de même qu'il faudra, dit-il, un environnement extérieur très favorable. Autre polémique au cœur de ce G20, la question des excédents commerciaux. Certains, comme les États-Unis, proposent de plafonner des excédents des comptes courants. L'Allemagne a déjà affiché son opposition. La chancelière allemande Angela Merkel estime que cette proposition n'est ni économiquement justifiée ni politiquement appropriée. L'Europe, de son côté, vote enfin définitivement le nouvel encadrement des fonds spéculatifs. Réuni à Bruxelles, le Parlement a donné son feu vert aujourd'hui à l'une des réformes phares de l'après-crise. Le texte prévoit la création d'un passeport européen pour les gestionnaires de fonds en échange de nouvelles règles de bonne conduite. Et on reste à Bruxelles où, en revanche, la querelle se poursuit autour du budget 2011. Elle oppose les États qui veulent limiter les dépenses et le Parlement qui réclame plus d'argent. Et les pourparlers sont dans l'impasse. Le Parlement accepte de limiter les dépenses comme le réclament les États, mais en contrepartie, il demande plus de poids à l'avenir sur les futurs budgets. Plusieurs pays ont déjà refusé. Une ultime conciliation est prévue lundi. Nouveau regain d'inquiétude sur la situation financière de l'Irlande. Les taux des obligations irlandaises à 10 ans frôlent désormais les 9% pour la première fois depuis la création de la zone euro. Signe de la méfiance des investisseurs à l'égard de la dette de l'Irlande. Et justement, face à ces nouvelles inquiétudes, Bruxelles s'est dit prête à aider Dublin en cas de nécessité. À déclaration du président de la Commission, José Manuel Barroso, en marge du sommet du G20. Pour préserver ses finances publiques, la Grande-Bretagne envisage quant à elle de durcir les règles pour les chômeurs. Le gouvernement conservateur veut suspendre pendant 3 mois les allocations à ceux qui refuseraient une offre d'emploi. Au bout de 3 refus, le chômeur serait privé de ces mêmes allocations, et ce, pendant 3 ans. Le MEDEF s'en prend à un amendement du Sénat au projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Amendement qui prévoit une baisse du seuil au-delà duquel les entreprises ont le droit à un allègement de charges. Une décision qui détruira des emplois selon le patronat. L'actualité des entreprises avec cette très bonne nouvelle pour les actionnaires de Siemens. Après l'annonce de son bénéfice annuel à plus de 4 milliards d'euros, le groupe allemand veut faire grimper son dividende de 70%. Disney, de son côté, déçoit les marchés. Le groupe de médias et de loisirs annonce
annonce ce soir un bénéfice en baisse de 7% à un peu plus de 830 millions de dollars, et ce pour son quatrième trimestre, à des profits en dessous des attentes, tout comme le chiffre d'affaires. Enfin, la bataille des brevets n'en finit plus dans les nouvelles techno. Motorola attaque à son tour Microsoft en justice. L'équipementier affirme que le géant des ordinateurs a violé ses brevets sur certains logiciels pour téléphone portable.
BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
On se retrouve sur BFM Radio pour notre émission qui porte aujourd'hui sur les logiciels libres avec nos invités Philippe Montargès, président d'Alterway et de l'Open World Forum, Franz Meyer, vice-président Europe du Sud de Red Hat, Boris Hocher, responsable du support commercial de l'offre Bull Service, et Stéphane Fermigier, fondateur de Nixeo et président du groupe thématique logiciels libres au sein du pôle de compétitivité systématique. On va juste dire un mot sur ce pôle de compétitivité systématique. Enfin, systématique, on connaît ce pôle de compétitivité, mais voilà, il y a une thématique logiciel libre. Alors, vous parlez de quoi?
Alors, logiciel libre, on s'en doute. Cette thématique, elle est relativement nouvelle. Elle a été créée il y a 3 ans. Elle s'est intégrée dans un pôle de compétitivité qui existait déjà, qui était déjà une grosse machine qui regroupait plusieurs centaines d'entreprises et de laboratoires de recherche. Et en 3 ans, je pense que ce groupe thématique a trouvé sa place. Il a, à l'heure actuelle déjà, on regroupe une centaine d'acteurs, donc environ 55 ou 60 PME, une quinzaine de grands groupes et un peu plus d'une vingtaine de laboratoires de recherche.
Et quand vous parlez de ces PME ou de ces grands groupes, ce sont pour leur département de recherche et développement.
Alors, les pôles de compétitivité, leur mission première, effectivement, oui, c'est de développer, d'aider leurs membres à développer des projets de recherche et développement collaborative qui sont financés le plus souvent par l'État, par les collectivités territoriales, éventuellement par l'Europe. Et sur de ce point de vue-là, le groupe thématique a également été une grande réussite puisqu'on a déjà plus de 20 projets sur un certain nombre de domaines qui sont stratégiques.
Comme quoi, par exemple?
Alors, il y a des projets sur les outils de développement. Il y a beaucoup de projets sur les outils de développement à base de logiciels libres, puisque le logiciel libre, depuis 20 ans, l'un de ses domaines de prédilection, c'est le développement. Pas mal de projets autour de l'embarqué. On a des projets sur la qualité du logiciel, on a des projets sur le sémantique, donc là on est plus dans
Donc vous avez bien trouvé votre place dans ce contexte de recherche et développement avec cette thématique.
Voilà, on a un projet en particulier qui est notre projet phare qui a démarré la semaine dernière, qui s'appelle Compatible One, et qui est un projet de faire une plateforme complète de cloud computing, donc de proposer sous forme d'une stack, une pile logicielle intégrant tous les aspects du cloud computing, du logiciel qui permettra aux entreprises ou aux opérateurs de monter leur propre plateforme de cloud et qui sera d'une certaine façon compatible avec les offres des acteurs actuels qui sont principalement américains.
Alors, pour revenir aussi dans cet univers de l'entreprise, je me tourne vers vous, Boris Hocher, de Bull Service. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte aujourd'hui des DSI, enfin des décideurs IT, lorsqu'ils veulent déployer ces logiciels open source, voilà, de pérenniser est-ce qu'on sent quand même, parfois on se dit, bon, finalement, je prends du Microsoft, je ne vais pas me planter. Alors, si je suis dans du logiciel libre, alors j'ai peut-être du spécifique, alors je peux aller chez des Red Hat où il y a des offres plus structurées, mais est-ce que cette crainte, vous la ressentez encore aujourd'hui?
Aujourd'hui, d'abord, la crainte, on la ressent beaucoup, beaucoup moins. Aujourd'hui, la question pour eux n'est pas de savoir si le logiciel, enfin, s'ils vont mettre ou ne pas mettre du logiciel libre, elle est beaucoup plus de savoir où il est. Puisque de logiciels libres, il y en a partout. Juste une petite parenthèse, parce que ce que je voudrais pas, c'est que les gens croient que c'est quelque chose de caché ou... Quand les gens payent leurs impôts, aujourd'hui, les applications qui tournent sont développées à partir du logiciel libre. Quand vous regardez aujourd'hui la télévision à travers une box, votre box, la box 9, chez Free ou autre, dans la box, l'intérieur, c'est que du l'embarqué en logiciel libre. Et quand vos enfants regardent la télévision sur leur PC, avec des outils comme VLC, c'est du logiciel libre. Donc en fait, il y en a vraiment partout. Et donc en fait, après, à votre question, est-ce que les gens craignent encore dans l'utilisation? C'est le job de sociétés comme Bull. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fournit? Voilà, on intègre, on supporte, on leur fournit une sorte d'assurance à l'utilisation. Et après, en termes de pérennité, le modèle lui-même assure sa pérennité, puisque si vous prenez Mozilla, ça vient d'un ancien outil qui était chez Netscape, hein, Communicator, mm-hmm. qui était donc du propriétaire qui est devenu libre. Les gens qui l'utilisent peuvent l'utiliser de la même manière. On a parlé d'OpenOffice. OpenOffice, donc repris par Oracle, aujourd'hui c'était transformé en LibreOffice. Mm-hmm. Donc vous voyez, le modèle se pérennise lui-même.
Philippe Montargès.
La crainte n'est pas tant sur la qualité ou les fonctionnalités que vont apporter ces solutions libres, elle est plutôt sur une problématique de gouvernance. Comment j'achète? Quels sont les problèmes juridiques? Comment je recrute? Comment je forme? Et comment je pérennise mon investissement là-dessus?
Voilà,
c'est ça le cœur du sujet.
Comme le disait tout à l'heure Franck Meyer, je sais pas comment ça se passe chez vous chez Red Hat quand il y a un client, mais c'est vrai qu'il y a une partie qui est pas forcément développée par les gens de Red Hat. Alors les gens de Red Hat y ont participé, mais voilà comment un de vos clients peut se si ça se passe mal ou il a besoin de trucs de processus de maintenance, comment il fait?
Effectivement, on contribue fortement à développer tous les logiciels que l'on package et que l'on livre aux clients et qui sont finalement pas à nous, puisqu'on y a contribué. Mais comme on est inséré dans ces communautés de développement, on travaille, on collabore avec tous les gens qui font le reste. Donc ça veut dire que si on a des problèmes pour des clients, on sait résoudre ces problèmes.
On a envie de vous dire, il y a quand même des petites guerres internes et tout ça. Enfin bon, on est...
Vous croyez qu'il y en a de la même manière dans les propriétaires? En fait, finalement, il y a les mêmes.
Ouais. Donc, justement, ce côté on partage et tout ça, c'est bien, on l'a compris, il y a plus d'innovation, c'est plus ouvert. Mais vous avez des concurrents comme il y a des Ubuntu, il y a des Mandriva, on a parlé de Suse, tout ça. La différence
se fait sur la qualité de service. C'est-à-dire ce que je vends tous les jours à mes clients, c'est de la qualité de service. C'est-à-dire quand il dit je vais utiliser le logiciel libre, il dit oui, mais moi je veux retrouver un logiciel qui est stable dans le temps, je veux pas en changer tous les trois matins et que ça marche plus avec le reste. Je veux de la maintenance, je veux des mises à jour, je veux du support. Je veux pas prendre de risques sur les licences juridiques, les choses comme ça. Donc en fait, quand Red Hat package, Red Hat fait tout ça. C'est-à-dire qu'il prend le logiciel pour lequel il y a des concurrents, mais nous, on fait notre propre packaging avec nos propres garanties, nos propres services, notre propre assurance, même sur la propriété intellectuelle.
Ce guichet,
et puis surtout ce packaging qui est clair, on sait ce qu'on a dedans, etc. Et à partir de ce moment-là, on donne ça au client. Donc, il retrouve ses billes, ses garanties. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les autres concurrents? Finalement, ils ont peut-être le même ou sensiblement le même logiciel, sauf qu'en fait, ils ont une qualité de service. Si elle est meilleure, ils vont gagner. Puis si elle est moins bonne, on va en vendre plus. Donc aujourd'hui, on a la chance que sur en tout cas un bon paquet de logiciels que l'on fait, on fait mieux notre travail peut-être que d'autres.
Boris Hochet de Bull Service.
Oui, juste une chose. Enfin, je voulais simplement rajouter, et ça ira dans le sens de France, mais ce qu'on va retrouver par exemple aussi chez les éditeurs comme Red Hat, c'est qu'au-delà du packaging, vous retrouvez aussi la richesse de l'offre. C'est-à-dire que vous allez avoir un bout de messagerie, un bout de serveur d'application, vous allez avoir en fait un ensemble de logiciels qui vont être supportés sous forme de guichet unique, qui sera plus riche peut-être que chez ses concurrents. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, il a un peu plus de succès que les autres.
Et est-ce qu'aujourd'hui... une question sur cet aspect juridique. Donc on a ce guichet. Pour vous, Boris Hochet de Bull Service, lorsque vous jouez ce côté guichet unique, c'est vous le responsable, le DSI qui fait appel à vous, le client qui fait appel à vous, c'est vous qui prenez en charge toutes les contraintes juridiques par rapport à l'utilisation de codes sources qui ont pu être développés par d'autres. Comment ça se passe?
Alors ça, c'est une très bonne question, ça. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que nous on va aider donc un DSI à choisir. On va aider un DSI à faire le choix. Derrière, on va intégrer. Et puis derrière, deuxième intérêt quand même qu'il y a à s'adresser, mais là, Franck, je pense, en parlera mieux que nous, sur la partie donc couverture juridique, c'est que l'intérêt de s'adresser donc à un éditeur open source, c'est que lui prend à sa charge toute la partie garantie sur le juridique. Alors que quand moi j'intègre donc un logiciel qui vient d'une communauté, d'une fondation, je prends à ma charge donc cette garantie juridique.
Oui, effectivement, en fait, la grosse différence avec le logiciel propriétaire, c'est que vous n'avez qu'un droit d'usage que vous n'avez acheté, puis celui qui possède les sources, l'éditeur, c'est lui qui est responsable juridiquement. Moi, quand je fournis un logiciel, il n'est pas à moi, donc le responsable, c'est l'utilisateur. Donc un des problèmes, c'est que les utilisateurs nous ont dit, mais moi, je veux bien utiliser, mais vous me garantissiez, vous me protégez. Donc en fait, tous les gens qui finalement souscrivent chez Red Hat pour du logiciel qui est libre, ils ont ce qu'on appelle une assurance open source qui les protège sur la propriété intellectuelle et les brevets par rapport au logiciel qu'on a fourni et qui fait que juridiquement ils sont couverts grâce à ça.
Et alors j'ai une question autour du partage. Alors on parlera juste après de l'histoire du reversement, comment on reverse justement, on participe à la communauté, parce que sinon je pense qu'on se fait vite exclure et maltraiter par les uns les autres. Mais au niveau de la mutualisation, est-ce qu'il n'y a pas des entreprises? Alors je vais me tourner vers vous, Philippe Montargès, président d'Alterway. Vous avez un client, vous développez pour lui vous avez un noyau open source, vous développez par-dessus des applications, vous allez les reverser dans la communauté. Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau-là de le client, il n'a pas trop envie, c'est un peu son savoir-faire quelque part sur lequel vous avez travaillé, qui va être reversé dans la communauté. Comment ça se passe?
Non, en fait, il n'y a pas de souci par rapport à ça, parce que en fait, l'intérêt du client, c'est que plus son logiciel est maintenue, la base par d'autres, est par d'autres, enfin, par plus il y a une garantie que ça, de sa robustesse, de sa pérennité, de sa, du fait que ce logiciel vit et donc de son investissement est pérennisé. Je crois que c'est un point important qu'on néglige, c'est que le logiciel libre, ce qui fait sa force, c'est ce processus d'intelligence collective qui génère de la valeur, mais qui génère aussi une forme de pérennité du logiciel. Les logiciels les plus robustes, dans les analyses qui ont été faites, c'est comme les logiciels qui sont issus de grandes communautés.
Alors, Stéphane Vermigier.
Moi, je pense qu'il faut distinguer entre deux aspects. Il y a des développements chez les. Enfin, quand un intégrateur développe un logiciel spécifique pour un client, il va y avoir des développements techniques et des développements métiers. Et souvent, si on arrive à bien séparer les composants techniques, ceux-ci vont être très facile à reverser dans une base de code open source, et c'est notre expérience en tant qu'éditeur de logiciels libres depuis 10 ans. On a démarré comme ça a été vraiment notre modèle de mutualisation qui nous a permis de faire progresser notre base de code et d'arriver à un produit particulièrement robuste au bout de quelques années. Et puis les développements strictement métiers, bah ceci logiquement il reste la propriété du client final.
Alors, il n'est pas obligé de les reverser dans
la plupart des selon la plupart des licences de logiciels libres.
Bruno Hocher de Bull Service.
Non sur un projet, effectivement, sur un projet, vous allez utiliser des composants techniques. Sur ces composants techniques-là, vous allez faire des modifications, des ajouts, des améliorations. Ça, vous pouvez le reverser. Mais de toute façon, sur un, j'allais dire, la valeur ajoutée métier du client, elle n'est pas dans ces composants-là, elle n'est pas dans les développements. Après, la question pourrait se poser, par exemple, si on voulait un jour développer un logiciel métier, vous voyez, par exemple, de gestion des salons de coiffure, avec quelqu'un qui nous le payait et quelqu'un qui pourrait se poser la question de savoir est-ce que je le reverse ou est-ce que je le reverse pas. Vous allez trouver sur Internet, par exemple en open source, un outil de gestion des cabinets d'avocats open source. À partir du moment où le logiciel open source montera de plus en plus dans le métier, la question se posera de plus en plus. Aujourd'hui, il est encore un petit peu dans les sphères techniques.
Il y a bien trois stratégies de reversement et des stratégies de type éthique. Je m'inscris dans une démarche durable, je veux financer le développement du logiciel. Il y a des stratégies de type technique, je veux pérenniser mon investissement parce que je suis supporté par plus de personnes. Puis il y a des stratégies de développement commerciaux et ça existe aussi.
Oui, technique. Eh bien, on l'a bien compris avec ce débat et qu'on va poursuivre dans un instant sur BFM Radio. Mais on quitte à l'instant ce débat pour retrouver le coup de pouce à une start-up.
01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio.
Et on retrouve Pauline Riglet, journaliste à la rédaction de Zéro Informatique. Bonsoir Pauline.
Bonsoir Frédéric.
Je vous laisse le soin de présenter.
Alors ce soir, nous allons parler de la start-up Web Géoservice, une start-up qui est spécialisée dans les logiciels qui propose une plateforme géographique collaborative en mode SaaS. Ce produit s'appelle Portail WGS. Nous avons en ligne le directeur général de Web Géoservice, Jean-Thomas Rouzin. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Quelle était votre idée de départ ?
Alors oui, portail collaboratif, c'est peut-être un petit peu compliqué pour tout le monde. En fait, on fournit la possibilité à nos clients de créer des communautés basées sur la cartographie. Alors, l'idée de départ, c'est avec Mathias Fitti, mon associé, et puis moi-même, on a travaillé pendant une dizaine d'années chez un éditeur de logiciels, leader dans les systèmes d'information géographique. Et l'idée nous est venue en observant ces utilisateurs qui créent des bases de données géographiques. Donc en fait, ils fabriquent beaucoup d'informations, mais ces informations sont souvent non exploitées, elles restent derrière les firewalls. Et alors qu'elle pourrait apporter beaucoup de services professionnels ou personnels.
Alors le principe, si je comprends bien, c'est que l'utilisateur va pouvoir enrichir l'outil. Alors comment ça marche ? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner ?
Oui, alors en fait l'idée c'est de fournir avec le portail une sorte de plateforme d'interactivité pour que les gens puissent communiquer, remonter de l'information. Alors en effet l'exemple c'est par exemple la mise en place d'un portail public pour la déclaration de graffiti. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre dans la main d'un citoyen, d'un administré, un iPhone. Il a son iPhone, en fait, et avec son iPhone, il va prendre des photos de graffiti sur le mur de sa maison, et grâce au système, il va remonter automatiquement cette photo. Et photo, évidemment, géolocalisée dans un système géographique, et la ville va pouvoir, elle, transmettre cette information à son prestataire, réduire les délais, et surtout informer le citoyen. Donc le citoyen devient un peu un capteur de l'information géographique.
Et alors avec ce produit, quelle clientèle vous visez exactement ?
Alors on va viser plusieurs types de clientèle. Première sont les grandes entreprises qui vont utiliser notre plateforme comme une plateforme d'échange avec leurs clients. Donc, un exemple, c'est par exemple dans la collecte de déchets, un opérateur de collecte de déchets va fournir à son client le tracé de ses circuits de camions de ramassage des poubelles. Et son client va lui remonter des informations sur la voirie, les travaux en cours, etc. Et puis jusqu'à l'opérateur pouvoir proposer des services aux clients de son client, c'est-à-dire jusqu'au grand public. Notre clientèle, ça va être les annonceurs qui vont utiliser plutôt la plateforme pour mettre en relation les internautes les uns avec les autres, basés sur la cartographie et autour de leurs produits, je sais pas, dans le domaine par exemple des sports de nature, de pleine nature. Et puis, dernier type de client, c'est plutôt être les collectivités locales.
Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Thomas Rouzin, qui est, je vous le rappelle, le directeur général de Web Géoservice, une start-up que vous pouvez bien sûr retrouver dans 01 Informatique.
Merci Pauline Riglet, journaliste à la rédaction de 01 Informatique. On se retrouve tout de suite sur BFM Radio pour la fin de notre débat sur les logiciels libres.
Mon nuage à moi avec EMC, Thierry Adam, directeur général.
Quand mon DSI m'a parlé de cloud privé, j'avoue, j'étais sceptique. Mais aujourd'hui, mon informatique est plus performante, plus économe et est devenue un véritable vecteur de croissance pour mon entreprise. Je gagne en agilité, en rapidité et les utilisateurs adhèrent totalement au projet.
Créez votre nuage avec EMC, le leader du cloud privé sur monnuageamoi.com.
Un message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de 01 Informatique.
Cette semaine, 01 vous présente les 100 personnalités les plus influentes du paysage numérique français. Chercheurs, dirigeants, experts, ils sont au cœur de la high-tech en France et font bouger nos entreprises. 01 cette semaine prend aussi la défense des entreprises innovantes. Face au coup de frein prévu par l'État pour leur financement, la communauté réagit et craint des conséquences dramatiques pour l'innovation.
Retrouvez 01 Informatique, le leader de l'information high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www.kiosque01.com.
BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
On se retrouve sur BFM Radio pour notre débat avec les logiciels open source avec nos invités Philippe Montargès d'Alterway, Franz Meyer de Red Hat, Boris Hocher de Bull Service et Stéphane Fermigier, fondateur de Nuxeo et président du groupe thématique logiciel libre au sein du pôle de compétitivité systématique. Alors, j'ai une question aussi. Aujourd'hui, dans les entreprises qui utilisent du logiciel open source, aujourd'hui, c'est indifféremment des PME, des grands comptes. Et est-ce que, et alors j'ai entendu ça au sein du CIGREF, qui est le club. Oh, je sais pas. Ils n'aiment plus qu'on dise le club. Hein, l'association qui regroupe
des
grandes entreprises françaises. Ils disent qu'aujourd'hui, lorsqu'ils ont ils font un choix, ils font un appel d'offres sur une application, logiciel, ils se forcent. Ils se forcent. C'est le mot. Ils s'obligent à avoir une alternative open source face à une alternative commerciale.
Systématiquement les DSI maintenant regardent l'alternative libre parce que effectivement il y a des réponses quasiment à toutes les problématiques d'un système d'information et qui se posent la question de savoir s'ils peuvent étudier une solution libre. Je pense que d'autant plus que les DSI, comme le disait Boris tout à l'heure, ils font du libre sans le savoir parfois, comme M. Jourdain fait de la prose.
Voilà,
c'est exactement
nom,
ça.
Donc
c'est plus des problématiques de gouvernance. Donc dans l'appel d'offres, ce qui est difficile pour eux, c'est d'intégrer ça dans la pratique d'achat. Je reviens à ça parce que c'est un point qui est important. Il y a des pratiques d'achat dans les entreprises de référencement, d'achat, qui ne sont pas encore tout à fait adaptées par rapport à l'acquisition qui correspond au modèle du libre.
Justement, c'est ce côté guichet unique qui est un peu compliqué, c'est ça ?
Non, pour reprendre l'idée de le CIGREF. Le CIGREF avait un groupe de travail dédié au logiciel libre. Effectivement, donc les conclusions ont été rendues lors de l'EWF, donc Open World Forum, à l'occasion donc du forum DSI, du CIO Summit. Et c'est vrai que les conclusions faisaient qu'aujourd'hui, une de leurs recommandations, c'est de prendre en compte toujours, à chaque fois, donc, la possibilité de mettre du logiciel libre plutôt que de mettre du propriétaire.
Et donc, on est vraiment entre grands comptes, PME, enfin, c'est vraiment...
Partout, vous allez en trouver dans tous les secteurs d'activité. Donc, nous, on a un très, très grand compte qui nous disait il n'y en a pas. On s'est rendu compte que toutes ces filiales à l'étranger étaient équipées, tous les portails étaient en logiciel libre. Donc, partout, vous en trouvez.
Alors, c'est Stéphane Fermigier.
Une des conclusions du CIGREF qui a été présentée par M. Ménard, justement,
lors de l'Open Forum, qui est le président du CIGREF,
c'était l'importance du support. support. Je pense que c'est, on a parlé de guichet unique dans le monde de l'informatique. Il y a des éditeurs qui créent, qui fabriquent et qui ensuite supportent des solutions. C'est bien de passer par un intégrateur, mais il faut aussi que le client soit conscient que derrière, ce n'est pas l'intégrateur qui fabrique le logiciel libre. Il y a des éditeurs et que c'est, il faut avoir aussi une relation direct, privilégié avec ses éditeurs si on veut influencer la roadmap, si on veut être capable de bénéficier de, des services, que ce soit en, en termes de développement ou en termes de maintenance quand le logiciel est en condition opérationnelle. Je pense que c'est un point extrêmement important.
Boris Hochet, je vois Hochet.
Oui, c'est important, mais ce qui, à la différence d'autrefois, aujourd'hui, l'intégrateur peut faire partie de la communauté. Oui. Nous, Bulle, particulièrement, on collabore sur un certain nombre de...
Vous n'êtes pas vu comme un... On est très très actifs dans les communautés et dans le secteur parce qu'effectivement, l'enjeu pour nous, c'est à la fois de travailler soit avec des éditeurs, soit avec des produits qui sortent directement des communautés. Et on les encapsule et on les propose effectivement dans ce type de contrat de service qu'on propose à nos clients. Donc l'intégrateur open source, il doit s'inscrire dans cette communauté, il doit reverser, il doit être actif. Et effectivement, c'est l'intérêt qu'il a par rapport à son client. Et c'est ça la différence d'ailleurs entre les intégrateurs, on va dire, open source et ceux qui sont traditionnels. Franz Meyer.
C'est effectivement un des problèmes qu'il y a eu un petit peu il y a quelques années et qui est moins le cas maintenant parce que les grands dirigeants informatiques commencent à comprendre comment ça fonctionne avec ses éditeurs et ses intégrateurs. Mais effectivement, ben, les intégrateurs ont sauté sur l'occasion de dire, tiens, on va se passer des éditeurs, on va télécharger le logiciel sur Internet et puis on va tout faire nous-mêmes et puis on va être plus compétitifs comme ça. Puis ils se sont retrouvés à devoir faire le rôle d'éditeur, c'est-à-dire à maintenir longtemps, participer, contribuer. Et évidemment, tout ça, c'est pas facturable parce que un intégrateur, il facture ses gens, ses projets, alors que le métier derrière de contribution, il fait partie indirecte du métier de l'éditeur et il le facture à travers son support et ses maintenances.
Et justement, vous, juste un mot, vous sortez demain, hein, c'est ça, Red Hat sur version 6
aujourd'hui, en fait.
Aujourd'hui,
la Red Hat Enterprise version 6, donc c'est un très grand lancement mondial qui était tant attendu avec les dernières nouveautés, évidemment, de la solution Linux Red Hat.
On voit, comme le disait Boris Hochet tout à l'heure, on est dans un développement tout à fait normal de ce type de logiciel. On a des versions 1, 2, 3. Enfin voilà.
On retrouve la manière d'engager avec les clients, ils retrouveront la même manière qu'avec leurs fournisseurs traditionnels. Simplement, effectivement, la technologie est basée sur le logiciel libre avec les avantages que ça peut représenter.
Et c'est bien dans cette logique de fond qui consiste à ce que le logiciel, on ne l'achète pas, mais on le consomme. On est bien dans une logique de service. Et ça, c'est un point important. Et le libre apporte sa pierre à ça vraiment de manière très, très importante. Dans toutes les strates.
Vous allez garder la parole, Philippe Montargès. Tout à l'heure, lorsque Yann Serra, en début d'émission, journaliste adhérent, est venu parler de l'actualité high-tech, il a parlé de ce grand contrat de la gendarmerie qui bascule tous ses postes. C'est 85 000 postes de travail sous un logiciel open source. Et c'est vrai qu'on a vu depuis quelques années plusieurs grandes administrations parler de la mairie de Paris qui passait au libre. Et puis là, il y a des. Vous avez dit que c'est la mairie de Marseille qui a fait machine arrière. Pourquoi on fait machine arrière alors
Pourquoi ? Parce qu'il y a une bagarre.
C'est du commercial, voilà.
C'est une bagarre commerciale quand même. N'oublions pas qu'on est comme sur un secteur commercial, financier, où des enjeux sont énormes. Et les entreprises qui sont comme dans une logique hégémonique ou quasiment. Et donc, effectivement, c'est des bagarres commerciales. Alors, les arguments.
Où est-ce qu'on peut avoir une déception quand vous avez des gens qui ont pu être déçus par le logiciel open source, où est-ce qu'elle peut être la déception ?
En ce qui concerne la mairie de Marseille, je n'ai pas sur l'information, mais je vois pas.
Dans les fonctionnalités. Nous, par exemple, le CIGREF nous avait dit que dans les grandes entreprises, une des difficultés qu'ils pouvaient avoir était que parfois, quand vous proposiez OpenOffice plutôt qu'un pack Office de Microsoft, on avait l'impression qu'on était un peu moins bien valorisé parce qu'on avait un truc gratuit. Voilà. Mm-hmm. Bon. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Là, on est sur la discussion de Marseille ou même de la gendarmerie.
De grands contrats.
C'est des grands contrats de postes de travail, de PC. Il y a quelque temps, les clients se posaient la question de savoir pourquoi ils allaient utiliser Linux. Sur les serveurs, aujourd'hui, la question des serveurs, elle ne se pose pas. Elle ne se pose plus.
Tous les serveurs web Internet aujourd'hui sont sur Linux.
Ils sont sur du libre. Donc demain, on verra ce qui se passera demain sur le poste de travail. Je pense qu'aujourd'hui, la bagarre commence.
Sur l'aspect métier, comme disait Stéphane. Parce que la partie métier est faible sur le libre.
Historiquement, la situation actuelle, elle est le reflet d'une progression depuis une vingtaine d'années. Le logiciel libre était très présent sur les outils de développement, sur l'embarqué, sur les noyaux et sur tous les serveurs, notamment les serveurs Internet. Évidemment, sur le poste de travail, c'est la progression est plus laborieuse. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il se crée des nouveaux marchés. Et quand il y a un nouveau marché, comme celui du téléphone mobile, du smartphone, qui s'est créé il y a quelques années, et bien on a vu qu'il y avait que Android, par exemple, ou d'autres plateformes basées sur du logiciel libre comme Migo, qui est basé sur un noyau Linux, elles ont pu s'engouffrer et réellement proposer des objets, enfin des produits qui plaisent au public.
Franz Meyer de Red Hat.
Oui, ben en fait, il y a un truc qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est les modèles économiques qui sont associés à ça. Je crois que c'est un point important, c'est-à-dire que c'est bien, on peut télécharger gratuitement, etc. Mais les opérateurs commerciaux, professionnels, de logiciels propriétaires mettent tout un tas de marketing en place, etc. Et les gens qui veulent utiliser le logiciel libre veulent entre eux la même chose. Donc le problème, c'est que si vous prenez quelque chose et puis qu'il n'y a pas de modèle économique derrière, de reconnaissance, vous n'êtes pas très valorisé là-dedans. Donc on voit bien.
C'est ce qu'on craint toujours avec le gratuit. Quand on a quelque chose de gratuit, on se dit oula.
C'est gratuit, ça vaut rien. Ouais. Alors on voit derrière qu'il faut des modèles, surtout sur les consumers, hein, le marché du consumer par rapport à l'entreprise qui paye pour son support, ses maintenances, ses qualités de service. Le consumer, il veut pouvoir accéder au logiciel, le prendre, mais il veut des tas de choses à côté. Et c'est ce qu'il y a à côté qui doit rémunérer. Donc, on reprend le cas d'Android où Google développe ça gratuitement et accessible à tout le monde. Et puis on commence à voir dans la presse depuis quelques mois que il y a plein de téléphones Android qui sont livrés avec téléphones qui sont livrés avec Android alors que ça leur rapporte pas. Oui. Sauf que le nombre de clics fait sur le moteur Google a augmenté dramatiquement lié à l'utilisation des mobiles Android.
Ouais, donc on voit
que le modèle économique boucle de manière très intéressante, ce qui leur permet de financer les contributions.
Mais globalement, il y a des domaines applicatifs ou des domaines techniques où on peut mettre en place un modèle économique facilement qui est compatible avec l'approche, le modèle de développement, les valeurs et le système de licence du logiciel libre. Et dans ce cas-là, c'est des domaines dans lesquels le logiciel libre a considérablement progressé au cours des 20 dernières années. Il y a d'autres domaines où c'est un peu plus difficile. Prenons juste un autre exemple, Firefox,
le navigateur
web de la Mozilla Foundation, qui est financé à 99,99% par Google, simplement par le fait que quand on tape une recherche par défaut depuis Firefox, on va tomber sur Google et pas sur MSN Live ou autre chose. C'est grâce à ce simple système de financement, on a pu financer le développement d'un logiciel qui est particulièrement performant et utilisé par le grand public.
Eh bien, on va conclure ici. On aura encore beaucoup de choses à dire. Je pense aussi que l'émergence de l'open source, ça vient aussi de notre évolution aussi sociétale. On collabore un peu plus. Hein, les réseaux sociaux en sont une preuve.
C'est la montée des générations X et Y.
Radar
collaboratif.
Ce seront les mots de la fin. Merci à tous pour vos interventions. J'espère qu'avec vous, les auditeurs de BFM Radio ont un peu mieux compris tous les enjeux, tous les défis du logiciel libre. Merci à nos invités Philippe Montargès, président d'Alterway, Franz Meyer de Red Hat, Boris Hocher de Bull Service et Stéphane Fermigier, fondateur de Nixeo. Sans oublier la start-up Web Geo Service et son directeur général Jean-Thomas Rouzin que nous avons eu en ligne et nos chroniqueurs de 01 Yann Serra et Pauline Riglet. Si vous avez manqué le début de l'émission, elle est en podcast sur bfmradio.fr. À la semaine prochaine.
01 Business sur BFM Radio avec 01 Informatique. BFM Radio.